Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos invités étant chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, la presse, le papier est-il encore désirable? Comme l'explique ce matin le journal La Croix dans un article titré « La presse aux quatre vents », la presse vit ces temps-ci un paradoxe. Elle aura rarement été autant lue que pendant le confinement, mais cette période l'aura privée de recettes. Recettes publicitaires d'abord, mais aussi recettes liées à la fermeture de nombreux points de vente et à la crise de Presstalis, distributeur de presse historique, mis en redressement judiciaire il y a un mois, tandis que certaines de ses filiales de distribution dans le sud de la France était purement et simplement liquidé, ce qui a entraîné une longue grève dans ces centres qui conduit les vendeurs de journaux de la région PACA en particulier à ne plus être fournis en quotidiens nationaux. Parallèlement, l'annonce de la création d'un fonds de dotation pour gérer Libération, le rachat de France Antilles par Xavier Niel, la fin annoncée des éditions départementales du Parisien, la reprise possible du quotidien Paris-Normandie en liquidation judiciaire redisent aujourd'hui la fragilité de la presse, en particulier dans sa version PACA. Nous allons en parler avec quatre invités. Isabelle Roberts, cofondatrice et présidente des Jours, un pure player, comme on dit, entièrement sur le net. Éric Fotorino, qui est fondateur, cofondateur du groupe Le 1, qui publie à la fois Le 1, le journal, mais également America, Zadig et depuis peu Légende. Denis Caro, qui est directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Et Laurent Bérard-Quélin, qui est à la fois délégué général de la SGP, la Société Générale de Presse, et président de la Fédération de la Presse d'Information Spécialisée. Bonjour à vous quatre et bonjour en particulier à vous, Éric Fotorino. Vous devriez être bonsoir. Content aujourd'hui, bonsoir, parce que vous vous retrouvez dans une situation d'annonciateur, pourrait-on dire, de la crise de la presse et en particulier de ce qui se passe autour de Presstalis. Alors, il faut peut-être expliquer en deux mots ce qu'est Presstalis, cette entreprise de distribution de presse qui se trouve dans une situation difficile, mais ça n'est pas la première fois, et dont le PDG était auditionné aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Il annonçait en particulier que l'État allait financer le redémarrage de cette nouvelle messagerie à hauteur de plusieurs millions d'euros, que le projet de budget rectificatif présenté en Conseil des ministres allait donner là aussi la possibilité à Presstalis de s'en sortir, mais évidemment avec beaucoup de dégâts, en particulier auprès des salariés. Vous avez quitté, vous, avec le groupe Le 1, vous avez quitté Presstalis il y a peu de temps.
Oui, c'est-à-dire que c'est un combat que nous avons mené pendant des semaines et des semaines, pour ne pas dire pendant des années, puisque en avril 2018, j'avais consacré un numéro entier du 1 à la faillite annoncée, j'allais dire, de Presstalis.
Et c'est nous au cœur du livre qui s'appelle « La presse est un combat de rue », donc que vous signez avec d'autres signatures du 1 en particulier, qui vient de sortir aux éditions de
l'Aube. Absolument. Et c'est vrai que Presstalis, c'est une faillite, mais pas pour rien. C'est une faillite qui est le fruit d'une gestion désastreuse, scandaleuse, qui est probablement frauduleuse. Et j'ai toujours été étonné de voir cette impunité des dirigeants qui se sont succédés depuis des années. Donc maintenant,
il faut expliquer le rôle de Presstalis. C'est donc un des deux distributeurs de presse en France avec les MLP, les messageries lyonnaises de presse, que vous avez rejoint d'ailleurs avec votre groupe. Et c'est par ce biais-là que magazines et journaux se retrouvent dans les relais des aéroports, dans les kiosques à journaux.
Oui, chez les marchands de journaux, il y a 22 000 points de vente. Voilà, 22 000 points de vente. Mais nous sommes partis comme d'autres. Hein. Je crois qu'il y a 40 éditeurs indépendants qui sont partis. Je pense que d'autres partiront aussi, dans la mesure où c'était pour nous une question de vie ou de mort, de jours et de semaines, pas de mois. Et pourquoi? Parce que effectivement, nos encours sont gelés lorsqu'il y a une procédure de règlement judiciaire. Et les encours, ça représente l'argent des recettes, à la fois de nos hebdomadaires, de nos trimestriels. Et lorsque c'est comme le sang que vous avez dans les veines ou l'oxygène qui y circule, si on ne vous alimente plus avec vos recettes, vous mourrez, puisque nous n'avons pas d'actionnaires puissant derrière nous. Nous n'avons pas de recettes publicitaires, donc voilà, il fallait partir. Mais si on regarde plus largement, on voit bien que cette filière s'est complètement désolidarisée dans la mesure où les intérêts des quotidiens et ceux des magazines ne sont plus du tout les mêmes, ou très peu. Et à partir de là, si on y ajoute beaucoup d'investissements qui ont été faits de façon opaque, je ne dis pas occulte, mais opaque. Hein, vous savez, pour avoir quand même des fonds propres négatifs de l'ordre de 450 millions d'euros, c'est pas une petite faute de gestion, c'est vraiment ne pas gérer du tout l'entreprise en fonction de l'intérêt de ses mandataires et de ses clients.
Et donc, effectivement, vous vous trouvez dans une situation différente désormais, après avoir quitté ce groupe Prestalis en tant que distributeur. Denis Carreau, vous avez besoin d'un groupe comme celui-ci pour distribuer les journaux du groupe Nice Matin, ou vous pouvez vous en passer vous-même ?
Alors nous, on a la chance dans ce contexte-là de pouvoir s'en passer puisqu'on a notre propre réseau de distribution sur nos territoires. Mais ce qui se passe à Prestalis n'est pas une bonne nouvelle pour l'ensemble de la presse et pas une bonne nouvelle pour nous non plus, parce que quand les rayons des marchands de journaux, les rayons des titres de presse sont vides, il y a moins de passages aussi chez les diffuseurs, et l'ensemble et le peu de titres qui reste dans les points de vente se vend moins aussi. Et puis c'est une vraie difficulté de rupture d'information. Les territoires et les régions ont besoin de la presse nationale.
Et vous vous trouvez d'une certaine façon en marge de cette crise aussi qui est particulière à la région PACA, je crois, jusqu'à Toulon, donc tout près de votre propre territoire, Denis Carreau, avec les rédactions de Nice Matin, puisque là il y a une grève des distributeurs, enfin non pas des distributeurs de presse, mais de ceux qui vont être donc repris pour les entrepôts qui sont les entrepôts anciennement de Prestalis dans la région. Ils sont en grève et ils empêchent effectivement les journaux nationaux d'arriver la plupart du temps dans les kiosques ou chez les marchands de journaux.
Oui, effectivement, et ça, ça a des conséquences, pour tout le monde, et d'où la nécessité, mais la presse quotidienne régionale a amorcé cette évolution depuis longtemps et a fait en sorte d'avoir son propre réseau de distribution, à la fois auprès des diffuseurs de presse, mais aussi a beaucoup développé ces dernières années le portage de presse et livre elle-même ses journaux. Et on a vu dès qu'un grain de sable se met dans la mécanique, et on l'a connu pendant le confinement avec l'interruption du service
de la poste. Oui, vous avez une coupure. J'espère qu'on va vous retrouver d'ici peu de temps, Denis Carreau. Et le service de la poste a été interrompu pendant
voilà,
cette période.
On a, nous, 6000 abonnés livrés par la poste. Bien, écoutez... Oui, absolument. Oui. Et on a 6000 abonnés qui, pendant plusieurs jours, n'ont pas reçu le journal.
On voit bien les difficultés de cette presse papier, qu'elle soit nationale ou régionale. Laurent Bérard-Quellin, vous êtes président de la Fédération de la presse d'information spécialisée. Est-ce que, justement, vous, en tant que président de cette fédération, vous ressentez, vous aussi, cette difficulté pour la presse spécialisée, en particulier papier, donc évidemment, de s'imposer encore dans un domaine qui devient de plus en plus numérique, avec une concurrence du numérique de plus en plus importante, Laurent Bérard-Quellin?
Alors, la migration vers le numérique est effectivement quelque chose de compliqué pour la presse, pour l'ensemble des titres, même si les choses avancent très vite et s'il est indéniable que la période de confinement a donné une dynamique à la consultation de la presse en ligne. Mais pour revenir sur la distribution papier, il faut quand même bien insister sur ce que vous avez dit au départ, c'est que c'est d'abord un drame social et qu'il y a beaucoup de salariés, plus de 500 salariés, avec le siège en plus à Paris, plus de 600 salariés qui vont rester sur le tapis, et ça c'est dramatique. Mais il y a aussi
Il y avait 910 salariés, c'est ça, chez Prestalis, hein, autant que je me souvienne.
Oui, c'est ça, un peu plus même. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles, et pour faire le lien avec d'autres sujets que vous avez évoqués au départ, c'est que il y a des repreneurs, pour les titres dont on parlera après, qui sont en redressement judiciaire, des repreneurs qui sont des professionnels de la presse. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que ces reprises, comme la poursuite de l'activité de Prestalis sous une autre forme, s'accompagnent de restructurations industrielles. Et la réalité de ce qu'on vit, aussi bien chez Prestalis que chez un certain nombre de quotidiens nationaux ou régionaux, c'est que la réforme industrielle n'a pas été faite.
Et aujourd'hui... Qu'est-ce que vous appelez la réforme industrielle dans la presse papier en particulier?
La réforme industrielle typiquement, par exemple, sur Paris-Normandie, c'est dramatique pour les salariés, mais l'imprimerie ne sera pas reprise. Or, on sait très bien qu'il y a une surcapacité sur cette région. Pour la petite histoire, l'imprimerie de Paris-Normandie a bénéficié d'aides de l'État pour être modernisée il y a 5 ans, alors que tout le monde savait sur le marché que d'autres solutions d'impression pouvaient être trouvées. Et pour Prestalis, je suis pas tout à fait d'accord avec monsieur Fotorino. Ce sont pas les dirigeants de Prestalis qui ont fauté, ce sont les éditeurs, parce que les dirigeants de Prestalis, c'étaient les éditeurs. Et donc nous avons collectivement pas toujours pris notre responsabilité. C'est vrai, plutôt les gros éditeurs qui étaient à la manœuvre que les petits éditeurs que je représente et que représente monsieur Fotorino, mais ce sont les éditeurs qui étaient en première ligne. Et la nécessité, c'était de faire la restructuration industrielle. Et elle va être faite cette fois-ci, et c'est une excellente chose parce que ça donne une possibilité à la presse d'avoir un avenir et surtout aux marchands de journaux d'avoir un avenir aussi, parce que le bien commun qu'on a dans la distribution en vente au numéro, ce sont les marchands de journaux, c'est eux qu'il faut aider, c'est eux qu'il faut sauvegarder. Et une chose importante aussi pour ceux qui sont en abonnement, c'est-à-dire qui ne passent pas par les marchands de journaux ou qui sont en numérique comme les jours dont on parlera plus tard, c'est que c'est la vitrine physique de la presse. Et si les jeunes générations ne sont pas confrontées à la presse papier, ils ne comprendront pas ce que c'est qu'un objet papier écrit et qui permet de se poser pour lire et approfondir des sujets.
Justement, Isabelle Roberts, puisqu'on parle des jours, vous êtes cofondatrice et présidente des jours. Vous avez longtemps travaillé à Libération et vous vous êtes occupée pendant très longtemps de la rubrique média, justement dans ce journal papier et maintenant aussi journal en ligne. Votre pure player, les jours, est très particulier. Est-ce que vous avez réussi justement à tirer profit de ce confinement, contrairement aux titres de presse dont on parlait auparavant, en tant qu'organisation de presse, justement?
Alors c'est vrai que la période du confinement pour tous les journaux numériques a été une bonne période, mais c'est aussi une période exceptionnelle, donc il faut pas non plus prendre ça comme un exemple, parce que y a un peu un effet comme la présidentielle en fait, le confinement, c'est-à-dire que c'est une période de forte actualité, donc tout le monde a envie de s'intéresser à un monosujet. Donc en plus, nous on a offert à tout le monde 7 jours d'accès gratuit à notre site, et malgré ça les abonnements ont explosé, donc c'était une bonne période. Maintenant, la période qui suit et que nous vivons aujourd'hui est un peu plus compliquée, parce que je pense qu'il y a un trop-plein d'actualités.
Oui.
Et que donc les gens ont un peu moins envie de s'intéresser à l'information. Mais c'est vrai que la période du confinement a été très bonne, et maintenant c'est à nous de transformer les abonnés qui nous ont connus comme ça, quoi.
Oui, parce que vous le rappelez, Eric Fotorino, dans le livre « La presse est un combat de rue », vous dites en fait... vous citez une maxime de Beuve-Méry, le fondateur du Monde: le Monde coûte son prix, plus l'effort pour le lire. Et vous dites: ne jamais oublier que s'informer fatigue. Est-ce que justement, en sortie de ce moment où on s'est informé de façon considérable, tous par tous les moyens possibles pendant 2 mois et demi, est-ce que justement la question de s'informer ne va pas devenir un peu plus délicate après la sortie du confinement, et en particulier pour toutes ces publications papier dans lesquelles vous croyez considérablement, Eric Fotorino?
Oui, bien sûr qu'on a fait l'expérience, pas seulement pour l'information, mais pour la vie de tous les jours pendant 2 mois, de ce qu'était la vie derrière les écrans. Donc une dématérialisation très forte qui a permis d'ailleurs à quelques pans de l'économie de continuer à fonctionner. Donc je pense que cette économie numérique qui s'est mise en place de façon encore plus forte a apporté beaucoup, et en même temps elle a continué à faire que la migration du papier vers le numérique pour ce qui concerne les journaux d'information s'est accélérée, avec, comme le dit Isabelle Roberts, l'explosion de beaucoup des consultations, des abonnements sur un modèle économique qui est fragile lui aussi. Les sites qui sont solides seulement sur le numérique, c'est il y en a pas beaucoup. Donc le modèle papier est très abîmé, mais le modèle numérique n'a pas encore montré qu'il était suffisamment costaud, suffisamment solvable, qu'il était un avenir économique. Donc je pense que, si vous voulez, il faut faire attention aussi à ne pas être manichéen, de dire il y a le papier où c'est vertueux et puis il y a le numérique où on est dans, en danger. Il y a des choses horribles écrites sur le papier, il y a des choses formidables sur sur le numérique. Donc c'est, je crois que l'enjeu c'est pas tellement ça de dire c'est bien ou c'est pas bien. Ce qui est vrai, c'est que le modèle de la presse écrite qui est apparue au milieu du 19e siècle fortement avec Émile Girardin, avec la presse, avec l'idée qu'on pouvait financer deux fois un journal avec ses lecteurs et avec ses annonceurs publicitaires, ce modèle-là est en train de mourir. Ça ne veut pas dire qu'il mourra demain matin, mais en tout cas, il est très très fragilisé. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le jour où on n'ira plus dans un kiosque, où on ne sera informé que derrière un écran, le risque est grand de ne plus avoir que une offre qui se sera resserrée, ramassée sur ce qu'on appelle les bulles numériques, c'est-à-dire des algorithmes qui vous pousseront vers vous des informations qui correspondent en gros à votre goût, à vos attentes, etc. On sera calculé par les écrans.
Mais quand vous créez des journaux aussi différents ou des revues aussi différentes qu'América, que Zadig, que Le 1 évidemment, ou que Légende, vous avez aussi une offre très variée comme pour des gens qui sont plutôt intéressés par ci, plutôt intéressés par ça. Est-ce que vous savez par exemple si dans le groupe Le 1, vos abonnés vont de l'un à l'autre, lisent les uns et les autres, ou au contraire sont attachés à une des publications parce qu'elle a été bien pensée, peut-être bien marketée même, pour que ça les satisfasse?
Alors, il y a les deux. Il y a à la fois effectivement un fond de lecteurs qui adhère à une démarche. Et cette démarche, il la partage aussi bien sur notre hebdomadaire que sur nos trimestriels. Et puis d'autres qui effectivement sont plus, j'allais dire, en silo sur une publication en particulier parce qu'ils s'intéressent plus particulièrement, par exemple, à l'Amérique ou à l'évolution de la société française. Donc, c'est soit América, soit Zadig. Mais ce qui est vrai, et ce que disait tout à l'heure Laurent Bérard-Quellin est important, c'est la confrontation au divers, à la diversité. On voit bien que la vérité, elle n'a pas un seul visage. Pour comprendre le réel qui est complexe, ça, c'est des analyses longtemps dites par Edgar Morin, c'est que la complexité, c'est du pluridisciplinaire. Et donc, lorsque vous êtes face à un journal écrit, vous avez cette pluridisciplinarité, vous avez aussi une hiérarchie qui n'existe pas toujours sur le web.
Alors, c'est une autre hiérarchie sur le web, souvent.
Ben, c'est une hiérarchie émotionnelle, c'est souvent. C'est souvent ce qui fait du clic, on parle même quelquefois du putaclic, c'est-à-dire ce qui va faire, justement, du buzz, qui va peut-être apporter de la pub, etc. Sur qu'est-ce qui fait que le titre d'un journal écrit va être en gras? Est-ce qu'il va mériter 3 colonnes, 5 colonnes? Qu'est-ce qui va mériter 1 colonne? Qu'est-ce qui va mériter 1 brève? Qu'est-ce qui va mériter rien? Vous voyez, c'est cette capacité qu'on peut avoir sur un journal organisé par une rédaction, c'est assez différent de ce que peut produire le web en général, parce que bien sûr il y a des sites d'information qui sont bien faits et sur lesquels on peut aller. Juste un point avant de laisser la parole. Tout à l'heure je parlais les dirigeants de Prestalit, je parlais effectivement des éditeurs du conseil d'administration qui sont à la fois dans une relation un peu schizophrène, qui sont à la fois les dirigeants et les actionnaires et en même temps les clients.
Isabelle Roberts, justement, vous avez fait des choix, vous, en créant les jours, cette longueur des papiers, ce travail très obsessionnel, puisque c'est comme ça que vous le présentez, sur des sujets que vous voulez traiter sur la très grande longueur, à la fois sur la longueur des papiers, mais aussi sur la très grande durée. Tout ça, ce sont des choix qui ont payé. Est-ce que, par exemple, en tant que pure player, vous espériez l'année dernière peut-être arriver justement à ne pas perdre d'argent? Vous y êtes maintenant ou c'est encore trop compliqué?
Alors, nous ne sommes pas encore tout à fait à l'équilibre. On n'en est vraiment pas loin. Ce qui est la trajectoire normale d'un pure player, qui met 3 à 5 ans à s'équilibrer en moyenne. Mais Eric Futorino soulevait une chose qui est importante, en fait. Je pense qu'il y a une crise de la distribution en général, que ce soit sur le papier ou sur le numérique. C'est-à-dire qu'on le voit très bien avec la liquidation de Prestalis, mais on peut le retrouver aussi sur Internet, parce que nous, notre distribution, elle est aussi soumise aux algorithmes de Google, qui sont plus ou moins opaques. Donc, on a ça en commun. Après, nous, au jour, on n'est pas du tout anti-papier. C'est pas du tout la question. Je pense qu'il n'y a pas un support qui est intrinsèquement supérieur à un autre.
Et non, mais néanmoins, de la part, par exemple, des dirigeants, des dirigeants de nos pays en général, vous notez, Isabelle Roberts, que l'aide va plutôt au papier, comme si d'une certaine façon, c'était l'outil majeur de démocratie par la presse que l'on pouvait avoir dans un pays, une république comme la nôtre, par exemple.
Oui, ça c'est un véritable problème parce que on voit que le pluralisme il s'exerce aussi sur Internet et on l'a bien vu pendant la période du confinement. Or aujourd'hui, l'énorme majorité des aides à la presse est réservée au papier et si on en revient à Postalis, on écope le Titanic à coût de millions quand même. C'est quand même hallucinant quoi.
C'est de 200 millions quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui réfléchissent à une autre presse? Et ça, c'est pas une question de papier ou de numérique, parce que je pense que le 1 réfléchit à une autre presse de la même façon que les jours. C'est-à-dire réfléchit à l'innovation, réfléchit à l'indépendance, à comment on construit une presse de qualité, quel que soit son support.
Bien écoutez, je vous propose de faire une petite pause dans ce temps du débat consacré à la question de la presse et en particulier du papier. Est-ce qu'il est encore désirable pour la presse? Avec vous Isabelle Robert, c'est Eric Fotorino, Denis Caro et Laurent Bérard-Keller à qui je donnerai la parole tout de suite après. Mais tout de suite, un titre qui va nous rappeler effectivement des kiosques à journaux d'antan. Edith Piaf.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
L'Humanité, Le Figaro, François.
Les travailleurs ont le droit de savoir.
Carboteur et phosphate, Rio, Tinto.
La princesse portait un nouveau chapeau.
Zizi placé 17, gagnant 22.
Venez chercher des mots, puisqu'il vous faut des mots. Et puis soyez.
Grâce à Lopez, Kowarski et Aslo.
La princesse va faire couper ses cheveux.
Venez chercher des mots, puisqu'il vous faut des mots. Et puis soyez heureux.
Éclairci par sa gère et en couvert.
Trois pièces cuisine moquette, très bonne affaire.
Mais la poitrine sera plus haute au printemps.
Mon linge à vraiment la blanche du blanc.
La princesse attend l'événement.
Piaf, kiosque à journaux, venez chercher des mots et puis soyez heureux. Laurent Bérard-Keller, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, mais enfin c'est dans une version un peu plus ancienne.
Tout à fait, on essaye d'être heureux en disant qu'il y a un avenir. Et il y a un avenir. C'est ça la bonne nouvelle, mais l'avenir, il est dans la complémentarité. Ça, pour nous, c'est une certitude, complémentarité entre le numérique et le papier, parce que c'est pas les mêmes modes de lecture. Je vais vous donner un exemple, Livre Hebdo, qui est un
magazine spécialisé,
comme son nom l'indique, qui s'adresse aux libraires et aux professionnels de l'édition, va abandonner son édition papier hebdomadaire pour passer sur une édition papier mensuelle. Et par contre, garder des rendez-vous de plus en plus fréquents dans la journée et des rendez-vous hebdomadaires aussi sur le numérique. Donc on est vraiment dans cette complémentarité entre les deux. Et on est aussi dans la complémentarité, et ça on a un peu de mal à le faire comprendre au pouvoir public, entre les typologies de presse. La diversité, ce n'est pas que les grands quotidiens nationaux, que les grands magazines d'information politique et générale, c'est aussi la presse de la connaissance et du savoir, celle que je représente autour de cette table, c'est-à-dire la presse professionnelle et la presse spécialisée, mais aussi la presse magazine de divertissement. Or, il y a une focalisation des aides, qu'elles soient sur le papier ou sur le numérique, sur la presse d'information politique et générale, qui se diversifie en plus, de plus en plus, sur les autres, d'autres thématiques, qu'elles soient professionnelles, l'immobilier, l'automobile, le golf, etc. Donc, qui concurrencent les titres qui ne sont pas d'information politique et générale, mais qui focalisent sur eux 90% des aides. Donc, il faut vraiment avoir une vision de la diversité qu'on trouve dans les kiosques. tout simplement. Mm-hmm. Et la diversité qu'on devrait aussi retrouver, je reviens à ce qui a été dit juste avant, sur les supports numériques et sur les plateformes. Or, sur les plateformes, il y a une focalisation sur les plus grosses audiences. Et la diversité n'est pas forcément, mm-hmm. Et même rarement, présente quand on consulte un moteur de recherche ou un réseau social.
Denis Carreau, quand on s'occupe d'un groupe de presse comme Nice Matin, qui est donc un groupe de presse régional, qu'on voit Le Parisien, où vous avez travaillé auparavant, vous étiez rédacteur en chef au Parisien des éditions locales, qui est en difficulté, qui se retrouve avec ces éditions départementales qui vont progressivement fermer pour pouvoir être rassemblées dans un seul cahier, par exemple, et ça inquiète beaucoup les journalistes du Parisien, on se dit qu'il faut plus d'offres, et il faut aller plus loin dans l'offre, justement, en faisant encore plus d'écrits, en multipliant les éditions. J'ai cru comprendre que vous vouliez travailler à avoir des bouclages qui ne soient plus des bouclages de fin de journée pour un journal comme Nice Matin, mais qui soient plusieurs bouclages par jour, comme on le faisait à la Libération, au lendemain de la guerre, avec évidemment des tirages qui étaient bien supérieurs à ceux qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, plusieurs bouclages par jour, c'est ce qu'on connaît déjà sur nos supports digitaux. Le mot qui a beaucoup été employé depuis le début de l'émission, c'est la complémentarité. Et la question se pose de la même manière pour des titres de presse quotidienne régionale. Mm-hmm. C'est la complémentarité entre le numérique qui se développe, bien évidemment, et le journal papier qui existe toujours bien heureusement, mais qui a de l'avenir. Et on en a eu la démonstration pendant la crise qu'on vient de traverser, avec un vrai réflexe des lecteurs qui, pour certains, nous avaient un peu oubliés, nous avaient abandonnés, et qui sont revenus dans les points de vente et ont eu besoin de se raccrocher au journal dans cette période difficile. Alors, ça s'est pas traduit nécessairement.
Vous croyez à la permanence, même pour un groupe de presse comme le vôtre, du papier. C'est pas quelque chose qui va disparaître pour Nice Matin, par exemple.
Alors, c'est pas quelque chose qui va disparaître. Bien entendu, on sait que, quelle que soit la qualité du journal qu'on fait, il y a une érosion. Cette érosion, elle est inéluctable. En revanche, la clé, elle est dans l'amélioration de notre support papier, et elle est la clé, elle est la même pour tout le monde. Et on le voit à travers l'exemple de Zadig ou du 1, la clé, c'est la qualité des contenus. Et pour la presse quotidienne régionale, la question se pose de la même manière, que ce soit sur le numérique ou sur le papier. La clé, c'est la diversité des contenus, la qualité des contenus, et en la matière, la PQR, la presse quotidienne régionale, qui a une image un petit peu vieillotte depuis plusieurs années, elle est en train d'innover, elle est en train de se remettre en cause, paradoxalement, elle n'a jamais été autant lue qu'aujourd'hui, quand on cumule les audiences papier et digitales, ces audiences, elles n'ont jamais été aussi fortes.
Oui, et d'ailleurs, c'est un groupe de presse régionale, la Fondation Varennes, c'est donc le groupe de la montagne qui a été pionnier, par exemple, Isabelle Roberts, dans ce que veut tenter donc à la fois Patrick Drahi et la rédaction de Libération, un fonds de dotation pour se fonder sur l'exemple qui a été donné par aussi Mediapart, mais les premiers, c'était dans les années 80, je crois, c'était une fondation qui donc aidait à ce groupe de presse, qui est le groupe de presse de la montagne, par exemple, Isabelle Roberts.
Oui, alors j'imagine que vous avez envie que je parle de Libération.
Ben non, vous y avez travaillé longtemps. Vous pouvez nous en parler, oui. Bien évidemment. Mais je veux dire, c'est sur cette innovation qui peut venir aussi d'un groupe de province, d'un groupe en région comme la montagne, et qui effectivement a inventé un type de manière de financer la presse, le fonds de dotation, et on le voit reparaître effectivement à Mediapart et donc à Libération depuis peu de temps.
Oui, il n'y a pas de raison que la montagne n'innove pas.
Bien évidemment.
Oui, après, voilà. Après, sur Libération, c'est pas aussi clair que ça. Et je pense que les journalistes se posent beaucoup de questions sur le but de cette fondation, qui est très certainement la réduction d'impôts, hein, de 60% pour Patrick Drahi. Donc, et en plus, c'est quand même sujet à des négociations avec Bercy. Hein. Ça n'a pas été si simple pour Mediapart non plus de faire sa fondation. C'est un modèle qui qui est assez peu fréquent en France. Donc,
oui, c'est le modèle du Guardian, en particulier en Grande-Bretagne.
Oui, pour le Guardian, notamment.
Oui, effectivement, c'est assez complexe. Éric Fotorino, vous avez une santé financière. Vous nous avez expliqué qu'il y a quelques mois, vous avez eu très peur. C'est ce que vous expliquez d'ailleurs dans votre livre sur la presse. C'est un combat de rue. Vous dites l'année 2019, j'ai eu des sueurs dans le dos en tant que fondateur du 1. Ça va mieux maintenant, justement. Et vous n'avez pas peur, vous qui êtes vraiment un tenant absolu du papier, vous n'avez pas peur de ce qui va vous arriver?
Ça va mieux, je peux pas dire ça comme ça. Si vous voulez, il faut séparer les problèmes. Si je regarde le lectorat du 1 ou de Zadig ou d'America, ça va très bien. On a beaucoup de lecteurs, beaucoup d'abonnés, des gens qui nous font confiance et avec des tranches d'âge qui sont quand même très intéressantes puisque pour le 1 par exemple, on a à peu près un tiers de nos lecteurs qui ont moins de 20 ans, ce qui est quand même formidable de se dire qu'on peut comme ça aller chercher des jeunes dont on nous dit qu'ils lisent pas que sur le numérique, etc. En revanche, ma vraie inquiétude, elle est sur effectivement les conséquences de la faillite, la mise en règlement judiciaire de Presstalis, dans la mesure où il faudra bien que nos encours nous soient payés. Pour nous, ça représente exactement 933 000 euros. C'est 20% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est pourquoi je ne pouvais pas attendre qu'une solution soit trouvée, qu'il fallait partir déjà faire distribuer nos journaux ailleurs. Et maintenant, j'espère... Vous savez, on entend le tic-tac quand même du danger. Mmh. Pour moi, si ces sommes ne sont pas versées avant la fin de l'été, je pense qu'on pourra parler de mes journaux au passé. Donc j'espère évidemment que ce ne sera pas le cas. C'est le cas aussi pour à peu près 200 journaux en France, 200 éditeurs de presse. Ça va aussi bien de Oui Demain, d'Ouzbek Erika ou de Society. Donc non, le danger n'est pas passé. Et puis j'espère surtout que ce qui arrive à Presstalis n'arrivera pas par contagion aux messageries lunaises de presse
qui sont l'autre distributeur. Mais vous avez au moins eu une intuition tous ensemble en créant vos journaux et votre groupe, Éric Fotorino. C'est qu'en vous passant de publicité, vous ne vous trouvez pas dans cette situation extrêmement délicate que connaissent beaucoup d'éditeurs de presse aujourd'hui, qui est que la chute des recettes publicitaires a encore aggravé la crise.
Oui. C'était un pari, si vous voulez, que bon, quand j'étais directeur du Monde, il allait de soi que j'étais très heureux d'avoir de la publicité. Donc là encore, vous savez, c'est des contextes. Il faut vraiment faire les choses de façon pragmatique. Lorsque j'ai créé le 1, puis mes autres publications, j'avais cette idée qu'on allait s'adresser aux lecteurs avec des contenus, que des contenus, et ne pas être dépendant de recettes publicitaires qui, quelquefois, la publicité, pas toujours évidemment, mais la publicité devient invasive dans certains contenus, dans certaines publications. Et donc, je savais le ras-le-bol que pouvaient avoir les lecteurs vis-à-vis de ça. Et donc, ça a été ça l'intuition qui, jusqu'à là, depuis 6 ans, a été validée, puisqu'on vient de faire le numéro 300. Maintenant, je pense que dès lors que nos coûts fixes sont plus faibles, c'est ça qui nous permet de passer en ce moment. Je crois que les lecteurs, ils veulent, ça a été dit tout au long de la discussion, ils veulent des contenus, ils veulent du plaisir aussi, du plaisir de lecture, de découverte. Ils veulent qu'on les amène à réfléchir, ils veulent pas nécessairement être d'accord avec ce qu'on écrit. Mmh. Ils veulent que ce qu'on écrit les fasse réfléchir, les fasse réagir et leur permette de se créer à eux leur opinion sans qu'on le leur impose. Mmh.
Laurent Bérard-Quélin, parce que la question de la baisse de la publicité, c'est très important, mais aussi ce qui va avec, et pendant le confinement, c'était le cas, le sponsoring, c'est-à-dire l'événementiel qui accompagne les journaux en région ou ailleurs. D'ailleurs, l'événementiel, c'est très important pour faire tourner une publication. Or là, ça s'est complètement arrêté pendant 2, 3 et peut-être encore plus, puisqu'évidemment, les théâtres, les cinémas vont redémarrer, mais tout doucement jusqu'à la rentrée prochaine.
Tout à fait, ça a un impact très important. On le savait, il y avait beaucoup de diversification qui avait été faite dans l'événementiel, dans tous les types de presse, mais là, on a vraiment découvert l'impact que ça avait, parce que c'est un double impact, en fait, un triple impact même. Le premier impact, c'est pour ceux qui organisent, donc là, ils n'organisent plus. Le deuxième impact, c'est en contenu, c'est les événements nourrissent nos pages. Ça nourrit les pages de la PQR, ça nourrit les pages de la presse spécialisée, ça nourrit les pages de la presse culturelle. Et là, il y a un manque très important. Et puis, pour accompagner ce contenu, ça nourrit aussi une demande publicitaire. et la demande publicitaire s'est effondrée avec les événements. Mmh. Donc l'absence des événements met en danger un certain nombre de titres, et l'été va être très compliqué, notamment pour toute la presse culturelle et la presse nationale, en partie à cause de ça, parce qu'il va passer peu de choses sur les territoires, et donc il y aura une pénurie d'annonces et une pénurie de contenu. Donc sur la publicité, ça dépend évidemment des modèles, on peut pas généraliser, il y a des titres qui sont 100% publicité sur le numérique et qui peuvent être de très bonne qualité, je pense par exemple à 20 minutes, qui est indéniablement un très bon journal, et il y a des titres qui sont entièrement en abonnement. Mais il faut bien voir que pendant la crise, tous ces titres ont souffert. Mmh. C'est pas parce que vous êtes sur l'abonnement à 100%, ce qui est mon cas particulier, que vous n'êtes pas impacté par la crise, mais vous l'êtes probablement nettement plus si vous êtes beaucoup sur la publicité ou sur l'événementiel.
Denis Caro, cette question de l'événementiel, j'imagine que dans un journal, un groupe régional comme Nice Matin, on a besoin des événements, on les accompagne, ça aide effectivement à faire vendre le journal aussi.
Bien sûr, on en a besoin parce que pour une grande partie de la presse quotidienne régionale, ça a été une source de développement aussi. On organise des salons, on est partenaire d'événements, donc on en a besoin, c'est important économiquement. Et puis c'est important aussi pour nourrir les pages de nos journaux. On s'est retrouvé en quelques jours dans une situation inédite où la vie culturelle, sportive, associative s'est arrêtée. Mmh. Donc on n'avait plus du tout de contenu et ça nous a obligé à réinventer totalement le contenu de nos journaux, à proposer autre chose.
Ce que vous appelez des enquêtes concernantes, c'est ça, en particulier?
Oui, absolument. Et c'est aussi sortir, et ce qui a été un peu la marque de fabrique très longtemps de la presse quotidienne régionale, de l'institutionnel, de l'agenda, et travailler différemment les sujets, et travailler aussi le lien, et c'est là où la complémentarité joue à plein, entre les internautes, les lecteurs du papier et nos meilleures ventes pendant la période de crise. Ça a été quand on a fait des pages entières de questions-réponses et de réponses précises à des questions
service,
posées
quoi.
Par des lecteurs, par des internautes, mais des questions liées au territoire.
Je voudrais donner la parole avant que nous concluions à Isabelle Roberts. Vous avez donc vous dirigez, vous êtes présidente des Jours. Ce journal en ligne s'est développé avec beaucoup de choses, des podcasts maintenant et tout à tas. Vous allez encore continuer justement à trouver d'autres moyens de faire en sorte que vous trouviez de nouveaux lecteurs, très brièvement, Isabelle Roberts.
Oui, bien sûr. Enfin, notre idée est pour revenir à la question de départ, c'est-à-dire est-ce que le papier est encore désirable. Je ne sais pas, mais nous, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est que le numérique le soit. Et c'est pour ça qu'on cherche tout le temps à s'adapter aux nouveaux usages. Parce que si on ne réfléchit pas à ça, si on ne pense qu'à sauver une industrie qui est en train de se casser la figure, ça veut dire qu'on est condamné à une presse muséifiée.
Et il faut pas.
Et ça reviendrait à condamner l'information.
Merci beaucoup Isabelle Roberts. Vous étiez en compagnie d'Éric Fotorino et les derniers numéros d'America, c'est À quoi rêvent les jeunes, deux addicts, c'est Besoin d'outre-mer et Légende est consacré, le nouveau journal, la nouvelle revue est consacrée à Zidane. Vous étiez avec Denis Caro, donc merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction des groupes de Nice Matin, et Laurent Bérard-Quélin, le délégué général de la Société Générale de Presse et président de la Fédération de la Presse d'Information spécialisée. C'était le temps du débat. Chloé Camprolin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier, Manon Prisset, à la technique Anthony Thomasson, à la réalisation Olivier Bétard. Vous pouvez aller sur le site de France Culture pour lire la conversation mondiale du jour. L'historienne des États-Unis qui est Nina Kouchner, états-unienne, Nina Kouchner, qui parle de l'attaque organisée et politique de la science dans son propre pays.